VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Ravi de vous retrouver pour ce point sur l'actualité. Grève générale au Burundi, l'appel lancé par un collectif contre la vie chère, a été suivi de manière contrastée à Bujumbura, constate l'AFP. Les bus, taxis, vélos et taxis moto se comptaient au compte-gouttes et la plupart des écoles et des magasins étaient fermés. Mais le mot d'ordre motivé par la hausse des prix de l'essence et une nouvelle taxe sur les appels téléphoniques était moins respecté dans le secteur public. Paul Kagame pourrait bientôt se joindre à la longue liste des présidents africains qui s'éternisent au pouvoir. Dans les médias rwandais, les voix se multiplient en faveur d'une réforme constitutionnelle permettant le maintien de l'actuel président à la tête de l'État après 2017, date des prochaines élections. Salwa Jaafari.
La machine propagande est bel et bien en marche. Sur les ondes, sur le petit écran, dans la presse écrite, on martèle les mêmes messages. Paul Kagame est le meilleur, le chaos régnerait dans le pays sans lui. Les louanges le décrivent comme un leader actif, efficace, artisan de succès économique, protecteur de la population. Bref, l'homme mérite de briguer un troisième mandat. Pour l'instant, la Constitution lui interdit de le faire. Kagame pourrait néanmoins suivre l'exemple de Pierre Nkurunziza du Burundi, de Joseph Kabila de la RDC ou encore de Blaise Compaoré du Burkina. Il suffirait qu'il change la Constitution. La campagne médiatique a donc pour but d'habituer la population à cette idée. Le parti au pouvoir dément pourtant toute manipulation. Ses prises de parole sont des initiatives individuelles, explique-t-il. Paul Kagame reste lui évasif sur la question. Dans une interview le week-end dernier, il a dit que c'était au peuple rwandais qu'il fallait demander s'il serait prêt à changer la constitution.
Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies commence une session d'un mois cette semaine et un récent rapport alléguant la torture dans une prison gambienne sera à l'ordre du jour. Pour la première fois, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a visité la Gambie en octobre dernier et pour la première fois durant le mandat du rapporteur, on lui a refusé le libre accès au lieu de détention d'après Sabrina Mahatani, chercheur pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Cette attention portée à la situation en Gambie, a-t-elle ajouté, pourrait fournir à d'autres nations l'occasion de faire pression sur le régime de Yahya Jammeh pour qu'il se penche sur les questions de droits humains dans son pays. Insurrection islamiste dans le nord-est du Nigeria. Boko Haram a rassemblé des troupes à Gwoza, une ville contrôlée par le groupe armé. Un témoin et un sénateur cité par l'AFP affirment que de nombreux habitants ont été exécutés.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Bonne nouvelle sur le front de la lutte contre l'Ebola. La dernière patiente ayant contracté la fièvre hémorragique a été libérée de l'hôpital. Et mieux, les autorités affirment qu'aucun autre nouveau cas n'a été signalé depuis plus d'une semaine. Nathalie Barge.
La dernière patiente, Béatrice Yardolo, est sortie du centre chinois de traitement d'Ebola à Monrovia. Cette dernière a confié à Associated Press qu'elle était l'une des personnes les plus heureuses sur Terre aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé qu'aucun nouveau cas n'a été signalé la semaine dernière au Libéria, pour la première fois depuis le mois de mai l'année dernière. Le Libéria doit maintenant observer une période de 42 jours au bout de laquelle, si aucun cas n'est signalé, le pays sera déclaré libéré de l'épidémie.
Lancement en Guinée d'un essai de phase 3 pour tester l'efficacité du vaccin VSV-EBOV contre le virus à Ebola. Un vaccin mis au point par l'Agence de la santé publique au Canada. Il s'agit de déterminer si le vaccin protège les personnes en contact avec des malades souffrant du virus à Ebola et si la vaccination des contacts permet de créer une zone tampon pour éviter la propagation de la maladie. Les négociations pour un accord de paix au Soudan du Sud, ravagé par près de 15 mois de conflits civils, sont au point mort ce jeudi matin à Addis Abeba. Alors que l'ultimatum fixé par les médiateurs expire à minuit, les médiateurs est-africains ont donné au chef des deux camps belligérants, le président Salva Kiir et son rival et ancien vice-président Riek Machar, jusqu'à aujourd'hui à minuit pour parvenir à un accord de partage de pouvoir au sein d'un gouvernement de transition censé mettre fin à la guerre. Remaniement ministériel en Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sissi a remporté aujourd'hui son ministre, a remplacé son ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, qui supervisait la sanglante répression lancée contre les partisans de l'islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée. Il a été remplacé par Magdi Mohamed Abdel Hamid Abdel Ghaffar, issu des rangs du département de la sécurité nationale. Crise libyenne, une réunion entre les deux parlements rivaux a débuté aujourd'hui au Maroc. L'objectif, rapporte l'AFP, est de trouver une personnalité nationale pouvant diriger un gouvernement d'unité nationale.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La Banque mondiale fait son mea culpa sur les conséquences néfastes des déplacements forcés de population dans le cadre de projets qu'elle finance. Le point avec Michel Joseph.
Nous avons examiné ce que nous faisons dans ce domaine et ce que nous avons trouvé suscite chez moi de profondes inquiétudes, reconnaît le président de la Banque mondiale. Jim Yong Kim déplore plusieurs problèmes importants. Premièrement, la Banque mondiale n'a pas assez contrôlé les projets impliquant des déplacements de population. Deuxièmement, les plans n'ont pas été appliqués de façon correcte. Enfin, explique le président de la Banque mondiale, les instruments de contrôle suffisants pour assurer que nos politiques sont respectées n'ont pas été mis en place. Nous ferons mieux, promet Jim Yong Kim. Il a annoncé le lancement d'un plan d'action pour y remédier.
Le procès des attentats du marathon de Boston, l'avocate du jeune américain Djokhar Tsarnaev va tenter d'éviter la peine de mort à son client, jugé pour ses attaques qui ont fait 3 morts et 264 blessés. Morgane Guerriec.
Le procès a repris ce jeudi dans un tribunal fédéral de la ville. Au premier jour hier, la défense a reconnu la responsabilité de l'accusé. Le 15 avril 2013, deux bombes artisanales déposées par les frères Djokhar et Tamerlan Tsarnaev près de la ligne d'arrivée du marathon avaient explosé à quelques secondes d'intervalle. C'étaient les attentats les plus graves depuis le 11 septembre aux États-Unis. Hier, l'avocate Judy Clark a insisté sur l'influence majeure du frère aîné Tamerlan sur son client. Dans une salle du tribunal fédéral de Boston, pleine à craquer, l'avocate de Djokhar Tsarnaev, 21 ans, n'a pris que 20 minutes pour présenter sa ligne de défense. C'était lui. Nous n'esquivons pas, n'esquiverons pas ou n'essayerons pas d'esquiver sa responsabilité pour ses actions, a déclaré Judy Clark.
De violents combats ont opposé aujourd'hui l'armée syrienne aux rebelles à Alep au lendemain d'un attentat spectaculaire des insurgés contre les services de renseignement pour marquer leur refus de la trêve de l'ONU. L'attaque de mercredi soir a fait 20 morts parmi les troupes gouvernementales et 14 chez les rebelles, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, qui signale également qu'au moins 18 civils ont été tués, dont 8 totalement brûlés, tel que le rapporte l'AFP. C'était lors d'un raid d'un hélicoptère qui a largué un baril explosif sur des personnes rassemblées pour acheter du fioul dans le quartier rebelle de Hadi Askar, dans l'est d'Alep, d'après l'ONG. L'ambassadeur américain en Corée du Sud se porte bien et a le moral en pleine forme. Mark Lippert a fait lui-même cette déclaration ce matin après avoir reçu des soins dans un hôpital suite à une attaque au couteau subie hier de la part d'un homme revendiquant la réunification des deux Corées. Il a été touché au visage et au poignet. Des milliers de vols annulés, de célèbres musées fermés et des centaines de milliers de fonctionnaires calfeutrés chez eux. Une nouvelle tempête de neige a balayé ce jeudi l'Est, mais aussi de manière plus inhabituelle, le Sud des États-Unis. 65 millions d'Américains seraient concernés par ce fond froid, d'après l'AFP. Et voilà, autre point complet sur l'actualité dans 20 minutes avec Morgane Guerriec et Chérubin Dorsil. Ce sera dans Le Monde aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans Washington Forum à 19h TU.